Bonjour Louis.
Avec notre éditorialiste, chaque matin, un regard sur l'actualité, sur le monde tel qu'il va. Ce matin, c'est le rôle de l'intelligence dans la cité. Vous évoquez Saint Bonaventure et Benoît XVI, Gérard.
Oui, je m'en excuse auprès de notre invité, je ne vais pas parler du cœur aujourd'hui, mais plutôt de la raison. On me pardonnera en effet un rapprochement qui n'est justifié à première vue que par la simultanéité temporelle. Au moment où Benoît XVI se rendait à Viterbe, et non loin de là, sur le tombeau de Saint Bonaventure, les militants de l'UMP et du Parti démocrate achevaient chez nous leurs universités d'été, comme il est coutume de le faire dans cette période de rentrée. Est-il permis d'aller au-delà de la simultanéité pour trouver un objet commun à ces deux événements? Après tout, nos politiques avaient pour but de réfléchir sur les grands problèmes du moment. Le mot d'université renvoie bien à l'étude, à la recherche, avec l'ambition de faire les choses sérieusement, en se mettant éventuellement à l'école des meilleurs des maîtres. Alors là, oui, un rapprochement est possible avec le pape, puisque ce dernier voulait rendre hommage à un grand docteur du Moyen-Âge, un de ses penseurs qui, avec Thomas d'Aquin, firent la gloire de l'université du XIIIe siècle. L'étudiant Joseph Ratzinger s'était en sa jeunesse beaucoup intéressé à Bonaventure, disciple de saint François d'Assise, plus sensible que Thomas à la dimension historique et pour cela précurseur des courants modernes. Benoît XVI a insisté sur la nécessité du travail intellectuel dans l'Église à la suite d'un tel précurseur. C'est une conviction profondément ancrée chez lui qu'il a déjà longuement explicitée dans ses interventions fameuses de Ratisbonne et des Bernardins il y a un an, nous nous en souvenons tous. Même pour le christianisme, fidèle d'abord à la règle de la foi, la raison est capitale. Elle l'est sous un autre mode pour la politique et pour les jeunes qui veulent se consacrer au bien de la cité. N'a-t-on pas répété à satiété que les idées menaient le monde ? Alors il faut souhaiter aux universités d'été d'accomplir pleinement leurs tâches, même si on a souvent l'impression qu'elles n'échappent pas à la mise en scène politique et à un spectacle où les dirigeants, hâlés, bronzés, sont surtout là pour briller devant les caméras de télévision. Dernièrement, notre collègue Alain Duhamel a formulé un diagnostic très sombre sur le déclin intellectuel de la politique. Les Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, François Furet auraient disparu sans être remplacés par des autorités équivalentes. Et les politiques s'intéresseraient de moins en moins aux grands débats de fond, préférant le pragmatisme aux idéologies. Je ne suis pas aussi pessimiste qu'Alain Duhamel, au moins en ce qui concerne nos intellectuels. Nous avons des chercheurs de grande valeur en différents domaines, même s'ils ne disposent plus de l'aura des grands du siècle passé. Le malheur, c'est que les politiques ne leur prêtent pas suffisamment d'attention. Or, la gravité des questions posées aujourd'hui, notamment par toutes les dimensions de la crise profonde que nous vivons, exige un examen fondamental des choix qu'il faudra opérer. Est-il nécessaire d'ajouter que les chrétiens participent à cette recherche commune et que Benoît XVI les y encourage vigoureusement ? Alain Duhamel laissait croire dans son diagnostic que la pensée sociale de l'Église avait connu ses beaux jours dans les années 50. Aurait-il oublié les grands textes de Paul VI avec l'intervention de ce géant de la pensée moderne qu'était l'économiste chrétien François Pérou ? A-t-il oublié Jean-Paul II à l'heure de Solidarność en Pologne ? A-t-il entendu parler de la dernière encyclique de Benoît XVI sur la question sociale ? Non, les chrétiens ne sont pas intellectuellement et civiquement démobilisés, et pour tous devrait sonner le réveil de la pensée.